When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Qu'est-ce que ça t'apporte de passer un concours comme ça ?
Moi, ce que ça m'a apporté, c'est toujours personnel. Je ne l'ai jamais fait pour les autres. C'est vraiment une satisfaction personnelle.
Tu voulais te prouver que tu étais capable.
Voilà, c'est ça. Et prouver, c'était surtout, je me disais, pas de femme en cuisine, meilleure de France 2. C'était ça. Mon but, moi, c'était
un vrai...
C'était ça. Je voulais y arriver. Je me dis, attends, il n'y a pas de raison que les femmes n'y arrivent pas non plus.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. J'ai vu que tu avais fait quelques podcasts.
Non, parce que j'en ai fait qu'un.
T'en avais qu'un seul ?
Je crois. Après, je fais de la radio.
Waouh !
Ah oui ?
Où est-ce que tu fais de la radio ?
Non, j'ai fait France Bleu. France Bleu Pays Basque. Et j'y allais une fois par mois.
Qu'est-ce que t'allais faire à France Bleu Pays Basque ?
On parlait cuisine.
Ah ouais ? Cuisine à la radio.
Voilà, cuisine à la radio.
Et alors, tu faisais quoi ?
C'est un chroniqueur qui fait un...
Alors, il faut que tu mettes ton micro bien près. Parce que moi, je suis lancé, là. Je suis parti.
Ah d'accord, ouais. Carrément. D'accord.
C'est freestyle.
Oui, voilà. Non, mais à la radio, non, c'était super parce que c'est Stéphane Claverie qui anime ça à France Bleu Pays Basque. Et il a une chronique cuisine, quoi. Donc, il invite un chef et un producteur.
OK.
Alors, on parle donc du producteur et ensuite, on fait une recette par rapport au producteur. Et on parle du produit en premier et après de ce qu'on peut, ce qu'on peut préparer avec ce produit.
Trop bien.
Et c'est toujours dans la bonne humeur et c'est très sympa.
Et t'as fait ça ? Et tu fais encore ou
non ?
Non, t'as fait ça ?
Plus trop de temps.
T'as plus de temps.
Je me suis mis en joker.
Tu viens,
voilà,
tu
m'appelles un joker.
Voilà, tu vas quand il faut
voilà,
combler.
Et que je peux y aller.
Oui, parce que t'es occupé. André, oui. Bienvenue.
Merci.
Bienvenue dans Histoire de succès. Merci de me recevoir. On est dans ton resto. Donc
oui.
Pour planter un peu le décor, il y a la cuisine. Derrière, ils sont en train de préparer.
Tout à fait. Ils sont en mise en place pour le service de ce midi.
Voilà.
C'est ça.
Merci de m'accorder du temps pendant ce moment. Quoi,
avec plaisir.
Qui est, j'imagine, un peu privilégié dans ton quotidien. Tous les matins, c'est reparti. Quoi.
Voilà, c'est ça. Oui.
Donc, on est dans ton restaurant qui s'appelle Les Rosiers,
tout
qui est
fait.
À Biarritz,
oui.
Qui a une étoile, on va en parler après,
oui.
Qui est un resto gastronomique, donc oui. Je crois qu'on peut dire ça. Toi-même, t'es chef depuis, on va en parler aussi, mais depuis des années. Et surtout, l'un des trucs qui t'a distingué dans ton parcours, c'est que vous le voyez pas, parce que c'est podcast, c'est pas du tout radiophonique, mais en tout cas, t'as ces fameuses liserées à ton col
voilà.
Qui te distinguent.
Le col bleu-blanc-rouge qui distingue le titre d'un des meilleurs ouvriers de France.
Voilà, que t'as eu en 2007, si
c'est
je me trompe
ça,
pas.
C'est ça, tout à fait, ouais, en 2007, ouais, en cuisine.
T'avais 28 ans.
Oui.
toute jeune.
Tu peux, avant qu'on aille plus loin, en fait, expliquer un petit peu en quoi consiste ce concours et pour, parce que j'imagine, en fait, et surtout pour moi, c'est Etchebest, tu vois, qui s'est retrouvé avec son col à Top Chef et qui
c'est
a
la
fait
référence.
Connaître un peu le truc. Mais pour expliquer, je crois même pas que je l'ai déjà entendu expliquer ce que ça voulait dire, quoi. Tu vois, c'est quoi ce concours exactement ?
Alors c'est un concours qui se déroule vraiment dans tous les métiers de l'artisanat. C'est tout ce qui est manuel. Donc et c'est un concours qui se déroule tous les 4 ans. Voilà, c'est pas chaque année. Tous les 4 ans, on peut se présenter à ce concours-là. L'âge minimum est de 25 ans. Et ensuite, on peut le présenter autant de fois que l'on veut. Voilà, si on échoue la première fois, on peut le représenter 4 ans après, ainsi de suite. C'est donc il se passe dans tous les métiers. Donc il y a les menuisiers, il y a la ferronnerie, vraiment les couturières, c'est la coiffure, voilà. Et on le passe, tous les métiers le passent la même année.
Okay.
Et donc c'est vrai que c'est le concours de l'excellence, le concours le plus prestigieux. Et quand j'ai commencé la cuisine, j'ai eu la chance de démarrer après mes études à l'Hôtel du Palais à Biarritz.
Ouais.
Et donc voilà, avec un chef meilleur de France et qui m'a initié, qui m'a donné le goût au concours. Donc c'est vrai que j'avais fait beaucoup de concours de cuisine. Et un jour, sans le dire à personne, je m'étais dit dans ma tête, un jour je tenterai bien celui-ci, un des meilleurs de France.
Et c'était la première fois que tu le passais, j'imagine.
Oui, c'était la première fois, à 28 ans.
Tu l'as eu 28 ans.
Oui, à 28 ans. Donc j'avoue que c'était jeune. C'était jeune surtout pour l'assumer après. Parce que moi, j'ai foncé tête baissée. Quoi. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Mais une fois que j'ai obtenu le résultat, c'est vrai que j'ai eu très très peur.
Alors, on va en parler.
Parce qu'il faut,
il faut l'assumer après.
Et c'est au quotidien. Donc,
on va parler de tout ça.
C'était une épreuve.
Tu as l'air d'avoir un parcours fantastique, quoi. et surtout, je ne sais pas si j'ai précisé, mais en fait, tu étais la première femme.
Oui, en cuisine, oui. La première femme en cuisine. Depuis le concours a démarré en 1934 ou 36, je ne sais plus exactement, 34 ou 36, le concours du meilleur de France.
Wow.
Et j'ai été la première en cuisine, oui.
C'est quand même incroyable.
Une sacrée fierté.
Bah ouais, bravo.
Merci.
Mais avant ça, on va revenir un petit peu en arrière. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, André, quand tu avais 7-8 ans ?
Oh, 7-8 ans, l'enfance, j'ai eu la chance de grandir avec des parents extraordinaires. J'ai grandi à la ferme, à la campagne au Pays Basque, et avec une maman qui cuisine très bien. Et je suis née gourmande. donc c'est ce qui m'a amené à la cuisine, quoi.
Ah vraiment?
Ouais, vraiment. Je suis vraiment née gourmande. J'aime manger.
Oui, mais il y a une différence entre aimer manger. Moi, j'adore manger, par exemple, et faire la cuisine, c'est vachement plus compliqué, surtout à ce niveau-là, quoi.
Après,
tu vois,
voilà. Mais je le connaissais pas, ce niveau-là, au début.
Oui, j'imagine.
Petite. Et puis c'était faire la pâtisserie. Maman fait de très bons gâteaux basques et tout ça. C'était faire la pâtisserie. Mais c'est vrai que j'ai vite vu qu'il fallait peser. Que c'était contraignant pour moi.
Ah, ok.
Pour la pâtisserie, c'est vraiment, si on pèse pas, si on n'est pas, si on n'est pas réellement rigoureux dans les pesées, on n'y arrive pas forcément. Donc c'est vrai que je me suis dit, la cuisine, ça va être mieux pour moi.
Ah, juste parce qu'il fallait peser, ça se gonflait de peser.
Vraiment, réellement.
Et c'est quoi la différence alors? Qu'est-ce qui t'embêtait là-dedans?
Eh bien, parce que la cuisine, on n'a pas besoin de. Bon, il faut bien sûr peser des choses, mais il y a l'instinct, il y a le côté goûter, et avec un tour de main, c'est ce qui me plaisait.
Ah oui.
Que la pâtisserie était trop précise pour moi.
Ah yes, il y a un côté. Alors, j'imagine qu'il y a plein de techniques en cuisine, mais il y a un côté très technique dans la pâtisserie
qu'il faut réellement suivre. Que la cuisine, on est plus ouvert, quoi. Je veux dire, c'est plus facilement ouvert, quoi.
Okay.
Et donc, du coup, mais je reste très gourmande. J'adore encore manger le sucre. Je suis folle de sucre. C'est ma drogue, le sucre. Mais j'aime pas le faire. C'est mon mari qui le fait au restaurant, justement.
C'est ton mari qui s'occupe.
De toutes les pâtisseries.
Parce qu'on va en parler, vous avez monté ce restaurant ensemble.
Oui,
en
c'est
couple.
Vraiment en couple. Ouais. Une cuisine à 4 mains, vraiment.
Ça aussi, ça doit être un truc.
Ah oui.
On va en causer.
Mais petite, voilà, j'ai eu une super enfance où j'ai grandi à la campagne. Et puis, c'est de super souvenirs, quoi. C'est vraiment de beaux souvenirs. Puis, là, s'amuser avec les voisins, les copains. On allait d'une maison à une autre, en vélo, à pied. C'est. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas encore tous ces écrans. Je le vois avec nos enfants aujourd'hui. C'est waouh, wow, c'était. On avait une super enfance.
Vous avez combien d'enfants?
On a deux enfants.
Ok. Qui ont quel âge?
Deux enfants, 7 ans et 8 ans.
Ah bah oui, c'est le début des écrans effectivement.
Ouais. Et c'est vraiment voilà la guerre des écrans.
C'est la guerre des écrans.
Et nous, on n'avait pas ça. On était tout le temps à l'extérieur. Et puis c'est ça, on allait voir. On jouait avec les ballots de foin. On était en extérieur. On aidait aussi beaucoup. On a grandi à la ferme, donc on aidait les parents au travail. Oui. On était vraiment, comme je disais encore à mes enfants hier.
Parce que tes parents étaient agriculteurs pour le coup.
Agriculteurs, voilà. Ah, et puis maman, un super potager.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Il fallait arroser les fleurs et tout. Donc on participait à tout ça. L'été, c'était ramasser la pomme de terre. Donc j'en vois maintenant les miens ramasser la pomme de terre avec leur grand-mère.
Tu les fais trimer un peu.
Un petit peu, il faut un peu.
Ouais, ça fait du bien en plus.
Oui, puis qu'ils voient, qu'ils découvrent et qu'ils ont cette chance-là aussi. Ils y vont, donc ils voient aussi un petit peu ça.
Comment tu as l'impression que cette enfance, justement, dans la nature, t'a forgé par rapport à la cuisine que tu fais aujourd'hui
C'est ça, c'est la terre. C'est le sens des saisons. C'est vrai que tout le monde ne sait pas les fraises, quelle saison c'est, les tomates, ou après, on va dire, tiens, la pomme de terre, quand est-ce qu'on la ramasse, le poireau. C'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là de grandir avec, donc de savoir tout ça. Et le goût des produits qui sortent de la terre et à la cuisine directe, il n'y a pas photo, c'est vraiment... Et puis, quand on ramasse une herbe aromatique du jardin directement, elle n'a pas du tout la même odeur que quand on l'achète au marché. Donc, c'est tout ça.
J'imagine qu'aujourd'hui, tu as des producteurs très locaux, on va en parler.
Oui, c'est important pour moi. Oui. Puis, on a la chance au Pays Basque, c'est un vivier.
Oui.
Entre l'océan, la terre, tout ce qui est maraîcher, tout ça, on est gâtés, on a tout ce qu'il faut.
Trop bien. L'école, comment ça se passait pour toi?
L'école, c'était pas pour moi.
C'était chiant pour toi?
Oui, très, 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 très. J'aimais pas du tout l'école, c'était une corvée. Le collège pour moi c'est un des plus mauvais souvenirs.
Ah ouais.
C'était long, j'aimais pas ça. J'aimais être dehors, j'aimais le sport, j'aimais beaucoup le sport, mais moi c'était l'extérieur et être assise là, étudier, non. Et donc c'est ce qui m'a beaucoup aidée, je savais donc dès petite que je voulais faire la cuisine et ça m'a sauvée.
C'est vraiment...
Oui mais c'est là, tu me disais à 7-8 ans, mais je pense que c'est là, c'est 7-8 ans, je savais vraiment que je voulais faire la cuisine.
Que c'était ton métier.
Oui, que
et
j'allais en faire mon métier.
Tu savais déjà que ça pouvait être un métier.
Mais par contre, attention, pas la gastronomie. Pour moi, je voulais être cantinière. Moi, j'allais à l'école, c'était une dame qui faisait à manger. Et j'avais ce souvenir, j'arrivais à l'école, et puis avec des copines, on allait toujours voir notre cantinière, qu'est-ce qu'on mange à midi. Parce qu'il y avait les odeurs, odeurs de ce qu'elle cuisinait. Et on allait toujours la trouver, et on savait ce qu'on mangeait le midi. Et c'était ça. Moi, c'était vraiment faire la cuisine de cantine.
Et c'était faire à manger pour les autres, alors c'est ça,
pour
faire plaisir.
Oui, pour faire à manger aux autres. Mais mon premier métier, je disais toujours, je vais faire la cuisine, mais c'était dans l'école de mon village, par exemple. Ma première idée, c'était celle-là.
C'est un peu dérivé, entre-temps.
Oui. Largement, mais sans le savoir. C'était vraiment ça, au début.
Okay.
Et donc, n'aimant pas l'école au collège, je dis, il faut faire les 4 ans. Après, je savais que j'allais me diriger sur un lycée hôtelier parce que je voulais faire la cuisine, quoi.
C'était vraiment...
C'était mon objectif, okay. Ouais. Après, j'ai été en troisième. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était là derrière moi et qui a cru en moi. Parce que malheureusement, quand on arrivait à mon époque au collège, je vais aller au lycée faire lycée hôtelier parce que je veux faire de la cuisine. J'ai eu des enseignants qui me disaient non, il faut aller faire du général.
Ah oui.
Alors que je n'étais pas forcément douée ni rien en plus. J'aurais été quelqu'un de doué, d'accord, mais ce n'était pas mon cas. Mais j'ai eu des enseignants, on a été confrontés à ce problème-là. Des enseignants qui ont refusé, qui me disent non, il faut aller faire le général.
Mais incroyable.
Et j'ai ce souvenir que heureusement que ma mère a cru en moi et m'a suivie, quoi. Et elle leur a dit non, stop.
Tu cuisinais déjà un peu à l'époque chez toi?
Oui, j'aimais bien cuisiner. Ouais. Puis j'aimais. Ça.
Donc elle voyait qu'il y avait un vrai truc.
Voilà, c'est ça. Et j'ai ce souvenir que c'est grâce à elle qui a su dire non, elle veut faire ça, vous allez la laisser faire ça. Quoi.
C'est encore un peu comme ça aujourd'hui ou pas? Ou c'était à l'époque où tu avais la voix d'excellence?
Je pense plus avant, mais je l'entends encore aujourd'hui. Je l'entends encore aujourd'hui, où c'est peut-être des fois des parents. C'est le sens inverse. C'est quand je l'entends. J'ai déjà eu, moi, là, des jeunes, oui. Un apprentissage ou en tant que commis, qui d'abord ont perdu du temps, entre guillemets, on perd pas de temps, mais qui ont passé le général parce que les parents ne voulaient pas. Ouais. On leur a dit à leur enfant, non, va faire un bac général et après tu feras ce que tu veux. Alors que, en fait,
c'est vraiment la meilleure façon de trouver un métier que
mais
tu peux faire partout dans le monde.
Complètement. Et puis on peut voyager, on peut. Ouais. Puis et c'est des métiers manuels où on apprend sur place, quoi. On apprend en pratiquant.
Ouais.
On n'apprend pas forcément derrière le banc de l'école, quoi. C'est vraiment, il faut pratiquer pour apprendre. Et encore moi aujourd'hui, j'apprends encore tous les jours. Ce sont des métiers où on apprend tout le temps. Donc ce sont des métiers enrichissants, mais qui ont besoin de pratique et manuelle, quoi.
Tu vois, autant je me dis, ok, peut-être à l'époque, il y avait une dégradation du métier manuel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, et puis en plus, tu vois, on parlait de Top Chef tout à l'heure, mais il y a ces émissions-là qui ont un peu redoré le blason du métier. Quoi.
Ah, complètement, oui. Il a ouvert les yeux. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment redoré le métier. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça a fait du bien pour ça. Tout à fait.
Donc, tu vas faire ton lycée hôtelier. Il y a un super lycée hôtelier à Biarritz.
Oui, c'est ça. Et le lycée hôtelier de Biarritz. Bon, j'ai eu la chance d'être prise. J'ai été prise au lycée hôtelier de Biarritz. Sinon, il y a un lycée aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y en a deux ici au Pays Basque. Donc, c'était mes deux choix. Donc, j'ai été prise ici à Biarritz. Donc, je suis arrivée à Biarritz pour faire un BEP et un bac professionnel en 4 ans. J'ai fait 2 ans de BEP et 2 ans de bac professionnel avec des stages durant ces examens-là.
Et j'imagine que tu étais comme un poisson dans l'eau pour le coup.
Oh oui, heureuse. Heureuse. Et puis, bon, après, j'ai pas du tout aimé le collège, mais alors le lycée, j'adorais.
Ouais.
C'était la liberté aussi. J'arrivais à l'internat, donc je partais pour la semaine.
Oui, parce que tes parents habitent au Pays Basque, dans l'arrière-pays,
40 minutes de Biarritz. Donc, je vais arriver le lundi jusqu'au vendredi. Et puis, on s'est retrouvés. Je me suis fait des amis de l'intérieur du Pays Basque aussi, c'est vrai. Et on est très amis. Et puis, c'était ça. Je faisais quelque chose que j'aimais. Je me sentais bien dans mon élément. Et par contre, voilà, j'étais toujours dans cette idée. Je suis arrivée au lycée en faisant mon métier de cuisinière pour aller faire la cuisine
faire
à
la cantine.
Quoi. Et c'est là où j'ai découvert le monde de la gastronomie.
Que tu connaissais pas du tout,
mais vraiment pas du tout, quoi.
Oui, parce que pour le coup, tes parents aimaient bien manger, mais ils ne vous amenaient pas forcément au resto, etc.
Mes
quoi.
Parents, oui. Alors, on sortait souvent le dimanche au restaurant, dans les restaurants traditionnels du Pays Basque.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que ça, c'était de bons moments aussi. De temps en temps, le dimanche midi, on allait manger tous les quatre au restaurant. Et ça, j'adorais ça.
Mais pour le coup, pas dans des restos
gastronomiques, pas du tout.
Ce qui est encore un autre monde.
Ah oui, tout à fait un autre monde et que je n'ai jamais connu. Et je l'ai découvert, donc... au lycée hôtelier.
Qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là quand tu découvres la gastronomie? Tu te dis, ah non, mais en fait, la cantine, c'est bien sympa, mais c'est ça que je veux faire. Quoi.
Mais c'est tout à fait ça. Je dis, oh là là, mais c'est ça. C'est ça que je veux, quoi. Et donc, mon premier stage, je l'ai fait dans un restaurant traditionnel du Pays Basque. Et ensuite, j'ai un professeur qui a senti en moi que j'aimais travailler, que j'avais envie d'apprendre. Et il m'a proposé, moi, pour l'été, donc j'avais 16 ans, il m'a proposé de m'envoyer à Cannes, au Martinez. Il avait un ami, parce que bon, la cuisine, c'est une famille. Hein.
Oui.
On se connaît tous. Mmh. C'est vraiment une grande famille. Donc, ce professeur avait un ami chef cuisinier au Martinez à Cannes, qui est Jean-Yves Leranger.
Okay, bon, pour les gens qui ne savent pas, mais le Martinez, c'est un palace.
Voilà. Hein, c'est vraiment le palace 5 étoiles.
T'es propulsé là-dedans à 16 piges, quoi.
Ouais, à 16 ans. Donc, il me dit, écoute, si tu veux, t'as 2 mois, tu vas 2 mois là-bas. Ah ben oui. Et donc j'ai dit oui de suite sans avoir demandé à mes parents, quoi. Je me souviens être rentrée à la maison et avoir dit vous, parce qu'il m'interdisait encore de sortir, 16 ans. J'avais pas encore le droit de sortir dans les bals et tout ça. Nous, c'était les bals et les concerts, les fêtes de village, quoi.
Bah oui.
Donc il fallait encore demander la permission pour aller aux fêtes de village. Et je me souviens être rentrée à la maison et avoir dit là, j'ai pas demandé ma permission, je m'en vais 2 mois, je pars en stage 2 mois au Martinez à Cannes.
Alors là, l'émancipation.
Et donc,
elle l'a pas bien pris.
Oui, parce qu'elle a pris sur elle. Elle l'a beaucoup pris sur elle. Elle a dû avoir peur, je pense, mais elle m'a laissé partir. Bon, je pense qu'après, voilà, elle s'est mise en relation avec le professeur qui l'a rassurée, tout ça. Mais elle m'a mis dans le train et je suis partie à Cannes et le chef Jean-Yves était à la gare pour me récupérer pour les 2 mois.
Et j'imagine à quel point ça doit être un choc pour toi de te retrouver dans ce...
Ah mais complètement,
ouais.
Et parce que pareil, moi je dis oui mais je connais pas du tout l'univers. Donc moi, naïve jusqu'au bout, j'arrive. C'est énorme, c'est immense. Pour moi, c'est immense. Ce sont des labyrinthes, c'est des sous-sols, c'est démesuré.
Il y a un monde fou, j'imagine, en cuisine.
C'est un monde, voilà, en cuisine, plusieurs cuisines. Et donc, j'ai la chance d'arriver dans une cuisine gastronomique. 2 étoiles au guide Michelin, à 16 ans. Donc là, c'est waouh, je découvre tout, quoi. Et je suis avec la partie du poisson, avec au poisson. Et je me souviens, on me demande, va chercher des homards dans le vivier. Mais je ne sais pas prendre des homards dans le vivier, j'ai peur, moi, de prendre un homard dans le vivier. Et donc, super, je suis tombée avec un super chef de partie. On appelle un chef de partie, le chef qui s'occupe du poste du poisson, et qui m'a appris à pêcher les langoustes et les homards. Et incroyable. C'est des souvenirs magiques.
Bah, j'imagine. Et en fait, j'essaie de me mettre dans la petite André de 16 ans, tu vois, dans la tête de la petite André de 16 ans qui se dit « Ok, en fait, la cantine, finalement, c'est pas du tout ça, j'ai envie d'aller là-dedans. »
Ah, mais complètement.
J'imagine à quel point c'est pas du tout le même niveau d'exigence.
Non, du tout. Voilà, c'est ça. C'est un monde très... Mais c'est militaire. Hein. Mmh. Et surtout là, 2 étoiles au guide Michelin, c'est vraiment militaire, rigoureux. Il y a la partie entrée, qu'on appelle garde-manger. Il y a la partie poisson, la partie viande, la partie saucier, partie dessert. Donc, et tout est... Il n'y a pas un bruit. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis le chef, c'est le chef, on voit le respect, la hiérarchie. Le chef parle au chef de poste et le chef de poste parle à son commis. C'est vraiment une hiérarchie que je découvre. Mais j'ai tellement eu l'habitude de travailler grâce à mes parents déjà à la ferme et tout ça, je n'avais pas peur du travail.
Ouais.
Donc c'est ce qui m'a, je pense, beaucoup aidée là. Je n'avais pas peur du travail et j'avais envie d'apprendre et j'étais tellement curieuse que tout s'est fait. Ça s'est fait vraiment tout seul, mais j'ai pas eu cette peur. Mais je pense que vraiment grâce à ce que j'ai déjà été inculqué au travail des petites, quoi.
Et l'aspect justement militaire, rigoureux, etc. Tu rentres dans le moule.
Ouais, mais vraiment, je rentre dans le moule sans le savoir ni rien, mais naturellement et normalement, et c'est pas quelque chose qui me freine ni me bloque. Et c'était vraiment cette soif d'apprendre, et je voyais tellement de nouvelles choses, et pour moi c'était magique, quoi.
Ouais, j'imagine.
Et puis je découvrais beaucoup, beaucoup de nouvelles choses en même temps, quoi. Et j'étais tellement curieuse que j'étais heureuse. J'étais heureuse.
Waouh. Donc tu fais ces 2 mois, là?
Voilà, je fais ces 2 mois et je repars donc faire mes 2 ans de bac professionnel. Oh. Et donc, le chef qui était Christian Villers, parce que Jean-Yves Leranger qui m'a recueilli, c'était le chef un peu de tout ce qui est restaurant à côté de la plage, du bistrot, de la brasserie. Et Jean-Yves m'avait mis donc dans le restaurant gastronomique 2 étoiles. Donc le chef qui était Christian Villers, qui mon dernier jour m'a appelé à son bureau et m'a dit, donc savait que j'étais de Biarritz et tout ça, m'a dit écoute, tu iras le prochain stage que tu as à faire, tu vas voir Jean-Marie Gauthier à l'hôtel du Palais, tu vas le voir de ma part.
L'hôtel du Palais, qui est un grand
Biarritz,
hôtel à Biarritz.
Qui est de nouveau un palace.
Ouais.
Donc la preuve que c'est une famille, quoi. Parce que c'est ce que j'ai fait. Hein.
Tu sais pourquoi il te dit, tiens, tu vas là-bas?
Je pense que c'est parce qu'il a vu que je pouvais être un bon élément. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, maintenant, avec nos jeunes à nous, quoi.
Tu les refiles à des bons...
Bien sûr, parce que ça se ressent et ça se voit de suite. Mmh. Quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est motivé, ça se ressent.
Ouais.
Et donc, je l'ai bien enregistré. Et dès que j'ai eu mes dates de stage arrivées au lycée, je suis de suite allée voir Jean-Marie Gauthier à l'hôtel du Palais.
De la part de
Christian Villers. J'ai dit, j'arrive de la part de Christian Villers, j'ai 4 mois de stage à faire, c'était de mai à août. J'ai 4 mois de stage à faire, je veux les faire chez vous. Donc, bien sûr, il m'a accepté de suite, étant donné que j'arrivais de la part de...
Ah ouais, donc en plus, il y a un vrai côté de cotation.
Ah oui,
quoi.
Mais vraiment. Et
t'as
puis
même
aller...
pas testé, quoi.
Du tout, vraiment. Puis c'était un stage. C'était vraiment un stage. Et donc, j'ai fait mes 4 mois de stage à l'hôtel du Palais à Biarritz. Et j'ai eu la chance, à la fin de mon stage, pareil, il me dit, à la fin de vos études, vous venez me voir, je vous embauche. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Wow, et j'imagine pour toi que c'était génial parce que tu restais dans le Pays Basque.
J'étais restée chez moi, c'était génial. Et je pouvais aller faire mes fêtes de village les week-ends.
T'avais plus besoin de demander à maman.
C'est ça. J'arrivais, on dormait pas beaucoup, mais c'était la jeunesse, c'était le,
Oui, parce que j'imagine que bien. C'est un métier quand même exigeant où tu démarres tôt le matin.
Oui, on démarre tôt le matin, puis c'est un travail en coupure. Donc, et puis on finit le soir, on finit voilà, à 23h, 23h30 de mémoire.
Après, à la
teuf. Je partais, voilà, bien sûr, faire mes fêtes. Des fois, on faisait une petite omelette et on arrivait en direct au boulot et on faisait une grosse sieste l'après-midi. Mais c'était de bons souvenirs.
Bah
c'était
oui.
vraiment de bons souvenirs.
Oui, clairement. Oui,
vraiment.
Et c'est donc avec ce chef que tu fais tes premières années, c'est ça?
Oui, alors voilà, je démarre et je reste 2 ans avec lui. Je reste devant lui et c'est là où je rencontre Stéphane, mon chéri.
Oui, vous vous rencontrez en cuisine alors ?
Oui, on se rencontre en cuisine, qui est en cuisine aussi lui. Et puis, donc voilà, on se rend ensemble et après on quitte Biarritz pour aller travailler ensemble sur la Côte d'Azur en fait.
Ok.
Donc en fait, souvent, on allait à
c'était
Paris.
C'était un vrai projet de couple,
oui,
c'est
c'était
ça
vraiment c'était vraiment un projet. Non, pas un projet de couple du tout.
Ouais.
C'était moi, mon projet, en général, on allait faire les grands chefs et les grandes maisons à Paris. Mmh. Paris m'a toujours fait peur, je ne voulais pas de Paris.
Okay.
Donc je savais qu'il y avait de grands chefs, de grandes maisons sur Côte d'Azur. Donc je m'étais dit toujours, j'irai sur Côte d'Azur.
Okay.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais parlé à mon chef Jean-Marie Gauthier, qui lui m'a proposé d'aller travailler pour Alain Ducasse au Louis XV.
Oui.
Donc moi, ce n'est pas un projet de couple du tout. Moi, c'était carrière, c'était boulot, je voulais apprendre.
Et donc c'est Stéphane
donc,
qui dit...
Donc j'ai dit à Stéphane, bon, moi je m'en vais à Monaco. Alors il me dit, je te suis. Donc il est allé voir le chef, Jean-Marie Gauthier, il dit, bon, je suis André, je vais à Monaco. Donc Jean-Marie Gauthier lui a trouvé aussi une place à Monaco, dans un autre hôtel à Monaco. Et donc du coup, c'est parti comme ça. On est parti travailler sur la Côte d'Azur, mais c'était vraiment... Et lui, il était pareil, c'était vraiment le boulot, quoi.
Ouais.
Le boulot avant la vie de couple ou quoi que ce soit, quoi. On voulait apprendre avec les grands, quoi.
Mais vous étiez quand même tous les deux.
Mais on était tous les deux.
Voilà. Tu sentais déjà à l'époque qu'il y avait une forme d'émulation entre vous.
Oui, entre nous deux, oui. Ouais. Puis on avait cette complémentarité, une entente vraiment aussi bien au travail que couple. Puis on savait faire la part des choses. Et donc, du coup, à Monaco, on a travaillé dans deux boîtes différentes, chacun avec un chef. Mmh. Et on n'a pas du tout aimé. On avait besoin de travailler ensemble, mine de rien.
Ah,
ouais, c'est fou, hein. Et donc du coup, après ces expériences, chacun séparé, on est allé travailler ensemble pour Philippe Labbé à Lyon.
Ok.
Pareil, un chef 2 étoiles aussi, et donc avec qui on a travaillé ensemble. Et après, on l'a suivi à lui à Chèvre de Raez. Donc en tout, on est resté 6 années sur la Côte d'Azur.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et puis après, le manque du Pays Basque a sonné, surtout pour moi.
C'est
pas
à peu près à ce moment-là, c'est ça, où tu passes le MOF
Après,
le
oui. Non, après plus tard. Je suis revenue, okay. Oui, quoique l'année d'après, je suis revenue en 2006. On est revenu en 2006. Parce que c'est plus moi, je voulais toujours partir, apprendre, mais Pays Basque me manquait, plus que Stéphane. Stéphane, lui, serait parti à l'étranger et tout.
Ah ok,
ouais,
donc, toi t'avais besoin de
revenir. Oui, de revenir vraiment au Pays Basque. Et donc ça se trouvait que Jean-Marie Gauthier avait de la place pour nous deux.
Donc retour à
l'hôtel du Palais pour les deux. Quoi. Et c'est l'année d'après, en 2007, où j'ai passé le concours du meilleur de France.
Ok. J'ai lu quelque part que tu as dit que c'était un concours tellement difficile que t'as craqué en fait.
Oui, j'ai beaucoup pleuré. Hein.
Oh oui.
C'était dur, très dur.
Pour expliquer un petit peu aux gens, et c'est une question que je me pose aussi, c'est à quel point, pourquoi c'est si dur alors que j'imagine avec combien de temps, quasiment 15 ans d'expérience, tu vois.
Ouais.
Peut-être pas quand t'as 28 ans.
Oui, j'en avais 10 ans d'expérience, mais c'est surtout que j'avais déjà fait des concours. Jean-Marie Gauthier m'avait mis déjà dès 18 ans, quand je suis sortie de l'école.
Oui. Okay.
J'avais fait des concours, pas mal de concours, et j'aimais beaucoup ça, parce que ça me permettait de me confronter moi-même, de pousser mes limites moi-même, jusqu'où je pouvais aller, et de rencontrer d'autres personnes. Mmh. Donc ça, j'aimais beaucoup.
La compète, hein, la compète, André, j'ai un peu l'impression.
C'est ça, tout à fait, j'aimais ça.
Tu faisais du sport?
Ouais, la pelote.
Ah,
j'adore
yes.
La pelote.
La pelote basque.
La pelote basque. Mais après, pas plus que ça, quoi. Mm. Mais la pelote. Et j'aimais cette compétition. Mais voilà, par expérience d'avoir fait déjà plusieurs concours, le concours du meilleur de France, ça a été le plus dur physiquement, moralement. C'est intense, c'est très intense.
En quoi ? Pour expliquer un petit peu, c'est plus dur qu'un autre concours.
Ce sont des techniques imposées, ce sont plusieurs techniques. Plusieurs techniques qui s'enfilent les unes les autres, et des techniques qu'il faut vraiment réussir. Et puis il y a le temps, il y a un temps imparti, c'est beaucoup de travail, une somme de travail vraiment à réaliser avec zéro erreur, hein.
Ouais.
Tout doit être parfait en temps imparti. On a 4 heures pour envoyer le premier plat. Donc en général on fait un menu, c'est pour 6 personnes.
Okay.
On a un menu.
Vous avez déjà le truc à l'avance, hein.
Voilà, c'est un menu imposé. Donc une entrée, un plat et un dessert à réaliser pour 6 personnes. En 5 heures de temps, au bout de 5 heures, on envoie le dessert. Donc 4 heures, on envoie, au bout de 4 heures, on envoie l'entrée. 4h30, le plat et ses accompagnements, ses garnitures. Et 5 heures, le dessert. On a un commis que l'on ne connaît pas, qu'on doit diriger. C'est un élève qui est tiré au sort du lycée hôtelier où on passe. Moi, c'était à Thonon-les-Bains, la finale.
Okay.
Donc, c'était un élève. Donc, l'on doit aussi
manager. Quoi.
Manager, ouais. C'est ça. Et donc, surveiller en même temps et lui dire quoi faire. Et puis, il y a toujours des imprévus.
Et tu ne le connais pas?
Non, on ne le connaît pas. Et puis, on s'entraîne. On a l'habitude de s'entraîner. Moi, j'étais à l'Hôtel du Palais. Je m'entraînais régulièrement à l'Hôtel du Palais. Mais là, on est dans un contexte dans le lycée qu'on ne connaît pas. L'élève qu'on ne connaît pas, le matériel qu'on ne connaît pas. Et puis, la finale, c'est vraiment tous les chefs 2-3 étoiles, tous les meilleurs de France qui sont là derrière
oui,
chaque candidat.
C'est des énormes noms qui vous jugent.
Donc,
hein.
C'est une énorme pression.
Ouais.
En plus du travail, c'est la pression de tous ces chefs qui vous observent, qui nous observent et c'est gérer tout ça, quoi. C'est gérer tout ça. Mais déjà, je pleurais beaucoup en préparant. Déjà, je trouvais très compliqué sur mes entraînements. Parce que je n'arrivais pas.
Ça te mettait en échec, c'est ça?
Ça me mettait en échec énormément parce qu'on avait une tarte soufflée à la Saint-Jacques à réaliser. Et c'était. Et après, on avait le thème, donc cette tarte soufflée à la Saint-Jacques. On avait un rable de lapin farci façon lièvre à la royale, avec des garnitures et des ravioles de crêpes à la clémentine. Mais le plat le plus complexe, c'était l'entrée. Et on n'arrivait pas à trouver la technique parfaite jusqu'à on l'a trouvé vraiment 2 jours avant de partir, quoi.
Et quand tu dis on, tu parles de qui?
Ben, l'équipe.
Parce que vous travailliez ensemble.
En équipe, voilà, je travaillais en équipe. J'avais Stéphane derrière moi, le chef pâtissier du palais. J'avais toute une équipe du palais qui m'aidait.
Incroyable.
À mettre des recettes au point et à goûter.
Ah ouais, donc c'est un vrai travail d'équipe.
Ah oui,
t'étais pas toute
vraiment,
seule,
non,
toi, à travailler
tout.
Tes recettes le soir.
Toute seule le jour J, si vous voulez.
Oui.
Mais sinon, j'étais en équipe. C'était vraiment un travail d'équipe. J'ai eu cette chance-là. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais moi, j'ai eu cette chance d'être accompagnée vraiment par une équipe derrière moi et qui était là, qui goûtait tous mes plats, qui me disait où m'améliorer et comment faire. Et donc, pareil, pour cette tarte soufflée, c'est le chef pâtissier qui m'a donné essaye de faire une chiboost sur l'appareil à souffler, quoi.
Chiboost, c'est quoi?
Mais une chiboost, en fait, c'est une recette que l'on fait en sucré, une crème pâtissière, quoi, qu'on rajoute avec de la meringue.
Okay.
Et donc, il me dit, essaye de faire ça, de l'interpréter en salé. Et c'est ce qui s'est passé. On a essayé de faire ça en salé et ça a marché, en fait.
Ah.
C'est ce qui a marché. Mais c'est vraiment beaucoup de stress pour arriver à la perfection, quoi. Et c'est ce qui est, c'est la seule fois où j'ai perdu beaucoup de poids.
Ah ouais?
J'aimerais en perdre autant maintenant, mais c'est... ça se passe plus comme ça.
Parce que t'étais stressée. Tu voulais gagner.
Ouais, je voulais y arriver.
Ouais.
Je voulais réussir. Je voulais vraiment réussir. Donc, je voulais y arriver.
C'est un concours où il y a 500 participants, c'est
ça? Oui, on était 660 inscrits. 660 inscrits, donc il y a une épreuve écrite qu'on passe à la Sorbonne. Ensuite, il y a une épreuve éliminatoire, qu'on appelle ça les demi-finales, une épreuve éliminatoire. Ou pareil, hein, ça se passe pareil avec un menu, 3 plats à réaliser et le même temps imparti. Et ensuite, après, il y a la finale.
Stéphane l'a passé aussi, c'est ça?
Oui,
la même année que toi?
C'est vrai, on l'a passé, on l'a tenté ensemble.
Okay.
Donc on a fait les éliminatoires ensemble. Lui, malheureusement, il n'a pas été sélectionné à la finale. Donc ça aussi, ça a été dur.
Ouais.
Ça a été dur parce que grosse déception pour lui, j'étais déçue pour lui.
Mais heureuse
mais,
pour toi. Heureuse
pour moi.
Et pour lui, j'imagine que c'est l'inverse.
Et lui, le pauvre, non, il a toujours su mettre ça de côté et m'aider quand même et jamais me faire part de son amertume de son amertume à lui. Non, il m'a toujours...
Oui.
Il m'a toujours encouragé, il a toujours été là, il est toujours là encore aujourd'hui.
Et donc tu finis par gagner ce concours, et effectivement, t'es la première femme.
Oui. on était, donc c'était la première fois que ça arrivait, on était trois femmes en finale.
Incroyable.
Il n'y avait jamais eu de femmes en finale, on était trois. C'était la première déjà, la première fois que ça arrivait.
Et vous êtes en plus jugé que par des mecs, donc
je, oui.
C'est aussi ah, ça oui, qui est oui. Un vrai, j'imagine, un cercle vicieux quoi, qui se crée.
C'était
quoi.
Que des hommes, et puis c'était ce que je te disais, c'est vraiment les plus grands chefs français. Ouais. Quoi. Donc incroyable, incroyable.
Et tu disais tout à l'heure que ça avait été chouette pour toi, j'imagine, à quel point c'est une concrétisation incroyable de,
oui.
D'avoir ce...
C'était énorme, puis je n'y croyais pas, j'y croyais. Je le faisais sans y croire réellement que j'allais vraiment l'avoir, parce que j'étais jeune et c'était la première fois que je le faisais. Donc c'est pour ça que je m'étais mis la pression, je voulais le faire bien, quoi. Et le fait, ben après, ça m'a mis quand même une grosse pression après. J'étais heureuse d'avoir obtenu ce titre. Mais après, je suis tombée de l'anonymat à une reconnaissance vraiment du jour au lendemain.
Ouais.
Et encore plus forte parce que j'ai été la première femme. Donc ça a été très médiatisé,
ouais.
Le fait que je sois la première femme.
J'ai vu quelques articles. C'était 2007.
2007, oui, 2007.
J'ai vu quelques articles.
Donc ça m'a mis le stress. Beaucoup, beaucoup de
t'avais
stress.
T'avais pas pensé qu'en fait ça t'amènerait autant de notoriété d'un coup,
mais
c'est
du
ça
tout, mais pas du tout. Moi, je...
Toi, tu voulais juste être dans ta cuisine
mais
à
voilà,
faire tes
et
petits
encore,
plats.
Et encore aujourd'hui. Hein. Mais toujours naïve. C'est ma naïveté depuis petite qui me suit, quoi.
Mais naïve comment?
Mais naïve parce que je pense pas après, je réfléchis pas après.
Ouais.
Je voulais faire ce concours, je voulais obtenir. Mais sans penser au. Ben, mine de rien, ben, si tu l'obtiens, j'ai pas pensé à après. Tellement j'étais sûre que j'allais pas l'avoir déjà.
Ah, tu croyais que t'allais pas l'avoir?
Je croyais que j'allais pas l'avoir, donc j'ai pas du tout réfléchi au après.
Pourquoi tu croyais que t'allais pas l'avoir?
Ben, parce que déjà, c'était la première fois que je le faisais.
Ouais.
Et pourquoi? Ben, parce que tous les autres concours que j'ai fait, j'ai jamais fini première. Je finissais toujours deuxième. Deuxième ou troisième. Tous les concours que je faisais, c'est deuxième, troisième. J'avais jamais première. Donc déjà, pour ça.
Incroyable.
Pour ça, je pensais pas arriver.
Donc il y a neuf gagnants, c'est ça?
Oui, on est neuf. On a été neuf reçus cette année-là, en 2007.
C'est fou, quoi. Et il y avait trois femmes parmi les 33 finalistes.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. On était trois.
Ouais. Wow. Ça s'équilibre un peu aujourd'hui?
Malheureusement, non. Dans le concours du Meilleur de France, non, on est deux maintenant. Il y a Virginie Basselot, qui est chef au Negresco à Nice,
okay.
Qui a un palace à Nice. Et non, parce qu'on est très minoritaires. Elles sont très minoritaires toujours à se présenter. Et donc, la dernière fois aussi, il y a eu une femme en finale qui n'est... elles étaient deux, je crois. Et pareil, on est vraiment minoritaires, on est très peu. Après, il y a de plus en plus de femmes en cuisine,
oui.
Et de chefs, attention, hein.
Oui.
Je parle du concours,
oui, oui.
Mais femmes chefs de plus en plus maintenant.
Mais pourquoi tu crois qu'il y a un déficit sur le concours? Parce que
le concours,
il y a un aspect de compétition peut-être.
Non, la compétition, mais le temps. Et moi, je sais que je l'ai passé là, 28 ans, j'avais pas d'enfant, j'étais tranquille, j'avais que ça. Mais j'aurais passé maintenant, c'est plus pareil. Et je n'aurais pas fait, en étant honnête. Avec le restaurant, les enfants, tout ça, j'aurais pas fait. Parce que c'est énormément de temps de préparation. Moi, j'avais posé mes vacances et je faisais que ça. Mais c'était des 18 heures par jour, 16-18 heures par jour. Hein. C'est énormément de temps de préparation si on veut vraiment arriver à le préparer correctement.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, à part cette notoriété qui est énorme, j'imagine, pour toi, à un moment donné où tu n'étais pas prête, mais
ouais.
Qu'est-ce que ça t'apporte de passer un concours comme ça? Et
ben,
effectivement, t'as le droit maintenant d'avoir tes galons.
Et oui, ça, alors,
galons, quoi.
Voilà, le col, je l'ai à vie. L'étoile, elle est remise en jeu chaque année,
oui.
Au restaurant, mais le col, je l'ai à vie. Moi, ce que ça m'a apporté, ben, c'est toujours personnel. Je ne l'ai jamais fait pour les autres. C'est vraiment une satisfaction personnelle et
tu voulais te prouver que tu étais capable.
Voilà, c'est ça. Et prouver, c'était surtout, je me disais, pas de femme en cuisine, Meilleure de France 2. C'était ça. Mon but à moi, c'était.
Un vrai...
C'était ça. Je voulais y arriver. Je me suis dit, attends, il n'y a pas de raison que les femmes n'y arrivent pas non plus. Mon but à moi, c'était ça.
Ok.
Tout simplement.
Mais il y avait, j'ai cru lire, en fait, il n'y avait pas forcément de démarche militante de ta part, c'est juste...
Non, pas du tout,
oui,
ni aujourd'hui. Hein.
Oui.
Ni aujourd'hui, mais c'était une compétition personnelle, quoi.
Ouais.
C'était un but personnel, et prouver que ben, nous aussi, on peut y arriver, quoi. Et on peut, et la preuve, j'avais réussi, j'étais fière de ça.
Ouais, j'imagine.
Voilà. Mais aujourd'hui, non, même aujourd'hui, ça reste et ça allait toujours personnel, quoi.
Ouais.
Après, je dis toujours... après je sais que
c'est militant puisque tu l'es là, tu vois.
Oui,
c'est-à-dire que tu.
Mais je dis aussi, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des chefs qui ne m'ont pas mis de côté parce que j'étais une fille ou une femme. C'est parce que je sais, je lis et j'entends des choses où ça a été dur pour des filles, des femmes d'être en cuisine par rapport à des voilà,
des remarques,
des remarques sexistes ou quoi et tout le reste quoi. Et moi j'ai eu cette chance là vraiment. Je remercie les chefs avec qui j'ai travaillé qui ne m'ont pas fait voir que ben tiens t'es une fille alors on va faire ça au lieu de ça. Non, qui m'ont toujours mis autant de chance, qui m'ont toujours donné autant de chance qu'un gars.
Ça t'est pas arrivé, mais tu te serais barré si t'avais été dans un environnement comme ça, tu crois?
Me connaissant, oui, ça c'est sûr. Ça oui,
faut
c'est sûr.
Pas faire chier, André, j'ai l'impression.
Non, j'ai mon caractère. On dirait pas comme ça, mais j'ai mon caractère et je sais ce que je veux.
On dirait comme ça, franchement. On a conscience que t'es.
Je sais ce que je veux et je me laisse pas faire. Si ça me plaît pas, ben non. Voilà, c'est vrai que je serais pas restée. Ouais. Je serais allée ailleurs.
Je comprends.
Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des super chefs et qui m'ont beaucoup appris, beaucoup apporté et qui m'ont jamais mis de côté parce que j'étais une fille en cuisine.
Et c'est aujourd'hui un truc que tu essaies de faire
Oui, bien sûr. Après, moi, j'adore. Moi, j'ai des filles.
Ben
là, on est en parité. Là, on est vraiment en parité 2-2. Là. Stéphane et Félix et Florine et moi. Mais l'année dernière, Stéphane était tout seul. On était trois. Trois et lui tout seul.
Voilà.
Et puis en salle aussi. Maintenant, j'ai que des filles. Donc, on est plus de... Plus, voilà, il y a plus de filles que de...
Okay.
Que de gars en salle, dans le restaurant.
Vous montez votre resto juste après, c'est ça, l'année suivante?
Oui, à chaud. À chaud de la médiatisation. Hein.
C'était une volonté de ta part, de votre part?
Oui, ça oui.
De monter un endroit, c'est ça?
C'était une volonté de notre part, mais quelque chose de petit à taille humaine. Parce qu'on a toujours travaillé dans des grosses structures, dans des palaces. Vraiment, on a toujours travaillé dans les palaces. Et j'étais toujours frustrée de ne pas avoir ce retour client. On fait un manger, on envoie de belles assiettes et on n'a pas le retour, l'échange du client. Et ça me frustrait à la fin, voilà, au fil des années. Et donc, je disais toujours, avec Stéphane, on voulait s'installer, mais je disais toujours quelque chose de petit, qu'on puisse échanger avec notre clientèle, qu'on puisse aller les voir. Et donc, quand on a commencé à chercher, et on a vraiment eu un coup de cœur pour cette maison. À Biarritz, on est excentré, on est vraiment excentré. C'est une petite maison basque au volet rouge.
Ouais.
Hein. Mais c'est ce coup de cœur parce que on se dit, ah ben voilà, là on va recevoir comme à la maison. C'est petit, on a 30 couverts maximum. On est complet entre 25 et 30 couverts. Et puis c'est ça, c'est pouvoir échanger avec les clients, voir s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Et j'aime aussi avoir le retour direct. Quand ils n'ont pas aimé, ils ont droit.
Oui.
Le client a droit de ne pas aimer, de me le dire. Et c'est important ça aussi pour nous.
Pour s'améliorer.
S'améliorer, tout à fait. C'est ce qui nous fait avancer, justement. Et avoir le retour direct, quoi.
C'est
vrai que là, on est heureux. Oui, on a trouvé notre petit nid.
C'était une vraie volonté de monter ce truc-là ensemble. Vous aviez travaillé ensemble pendant des années, etc.
Voilà.
Vous disiez, OK, on va...
Ouais, c'est ça. Après le concours, c'était une idée qu'on avait déjà depuis quelques années avant. On se disait, on aimerait bien avoir notre affaire, quoi. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir obtenu le concours, et ça a accéléré les choses en disant... Puis le chef Jean-Marie Gauthier aussi m'a dit, bon, maintenant, tu as le titre. Il faut voler de vos propres ailes, quoi. Il est temps de
vous
voler.
Il vous a poussé du nid, quoi.
Voilà. Mais c'est complètement ça. Il nous a mis un coup de pied, quoi. Et puis on s'est dit, allez, on y va, on saute. Et pareil, on a ouvert, pareil, naïvement, sans savoir. On n'est plus chef. On est plus chef
gérant.
De notre cuisine. Voilà, on est gérant d'une entreprise, on gère du monde, on gère une entreprise, tout ce qui va avec. Et ça aussi, mon côté naïveté m'a suivi parce que j'ai dit, ah oui, il y a tout ça quand même. Une fois qu'on s'est lancé. Donc, on a appris sur le tas.
Vous n'aviez jamais monté de boîte ensemble.
Mais pas du tout.
C'est pas du tout le même métier, pour le coup.
Hein. Et ça, je le confirme, c'est vraiment pas le même métier. Parce que y a tout le reste à gérer, quoi. Et les imprévus, et puis tout ce qui est papier, et tout. Il n'y a pas que la cuisine, justement.
Oui, c'est ça. Et même, j'imagine, quand tu es en cuisine, tu n'as pas forcément de rapport avec les producteurs, avec d'où viennent...
Oui, voilà, quand on travaille pour les autres
les produits,
et tout ça,
etc.,
voilà, c'est
quoi.
Ça. Et là, c'était ce qu'on voulait aussi.
Oui.
Ayant grandi ici au Pays Basque, moi, j'ai beaucoup de... Voilà, j'ai des amis d'enfance qui ont pris les suites à la ferme et j'avais des connaissances. J'avais cet avantage de pouvoir travaillé directement avec le producteur. Et
donc, t'es allé voir tes amis d'enfance?
Ben oui, comme incroyable. Pour l'agneau de lait, un ami d'enfance. Les fraises, actuellement, là, mon village, à Mianjiang, de petite, on allait ramasser les fraises. C'était les premiers travails d'été qu'on faisait. Souvent, on va castrer le maïs. Ou alors, on avait ce producteur de fraises et framboises, on allait ramasser les fraises.
Incroyable.
Et voilà, ce sont des connaissances de petite, quoi. On travaille les fraises et les fruits rouges de Mendiande, et c'est le fils qui a pris la suite et tout ça. Et il est plus jeune que moi et on s'est vu grandir tous. Et
c'est ça que tu venais chercher en revenant au Pays Basque.
Ah mais complètement. Ouais. Ah oui oui. Ah oui et puis on connaît nos produits, on sait la région que l'on a, la terre, la mer, c'est un vivier. Et puis c'est ça de pouvoir travailler avec des maraîchers que l'on connaît et de connaître leur travail, de pouvoir aller les voir. Et l'avantage que l'on a, nous, on est petits. Donc, on n'a pas besoin de grosses quantités. C'est l'avantage aussi de pouvoir se provisionner aussi directement le producteur en direct, de le faire en direct.
J'ai l'impression qu'il y a eu un truc où, à un moment donné, tu avais une vraie envie de grandir professionnellement, etc. Et que... Vous vous êtes dit à un moment donné, non, mais en fait, on va se poser aussi, on est bien là où on est.
Ouais.
Et que t'es pas, tu vois, tu disais tout à l'heure, aller ouvrir un restaurant à Paris.
Non, du tout.
C'est pas un truc.
Et puis j'aime bien, puis j'aime pas, entre guillemets, m'exposer aussi. Je suis bien chez moi. M'exposer, je le fais facilement et naturellement ici, chez moi, au Pays Basque.
Ouais.
Mais en extérieur, j'y vais très peu.
Ça t'a pas empêché, cette année, t'étais dans Top Chef, par exemple.
Oui, ça, oui, bien sûr, oui, oui, Top Chef, je dis pas non, et ce sont des choses qui me demandent pas beaucoup, c'est un aller-retour sur Paris, ouais. Aller 2 jours maximum, ça me va.
Mais ça te donne de la visibilité, pour le coup.
De la visibilité, et aussi rencontrer les autres chefs, aussi, c'est bien, ça j'aime aussi, rencontrer surtout les autres, et puis voir comment ça se passe, et ça, je suis toujours curieuse, donc ça, ce sont toujours des choses qui m'intéressent, de voir comment ça se passe.
Ok. Mais ton camp de base, c'est
ouais,
ici. Oui,
voilà. Il faut que ça soit pas trop long en extérieur, quoi. C'est surtout ça.
T'aimes pas Paris, c'est ça?
Mais je connais pas Paris. Je fais très rapide. C'est des allers-retours sur Paris et donc je peux pas dire que je connais Paris.
Parce que pour le coup, il y a moyen d'aller manger des bons restos.
Ah mais oui, mais ça, je profite de le faire.
Oui, c'est ça. Tu vas là-bas.
Ça, c'est ma priorité. Hein. La gourmandise, elle est là, hein, et la curiosité. Donc, si je fais un aller-retour sur Paris, on fait un restaurant en même temps, quoi.
Ouais. Mais puis j'imagine en plus que quand t'es chef comme ça, tu manges plus la cuisine de la même façon. C'est comme un musicien qui écoute plus jamais la musique de la même façon, quoi.
Oui, non, mais après, on aime aussi ne pas se poser des questions et réfléchir. On aime mêler le pied sur la table.
Okay.
Et passer un bon moment et ne pas trop réfléchir. Okay. Après, oui, bien sûr, il y a des choses où comment tu as fait ça? Ça, oui.
Ouais.
Mais on aime bien aussi la détente. Mettre les pieds sur la table pour la détente, c'est ça le but d'un resto, c'est ça, c'est se faire plaisir.
T'arrives à débrancher le cerveau du chef.
Il n'y a pas de problème, oui, oui, ça, pas de souci.
Comment ça s'est passé dans votre couple, en fait, à monter cette boîte ensemble? C'est un sacré truc, parce que vous êtes co-chef.
Oui, c'est ça.
Et en même temps, vous êtes j'allais dire...
La vie de couple à la maison.
Du tout. Et puis vous êtes co-parents.
Ouais.
Vous avez des enfants ensemble.
C'est ça, on a les enfants maintenant ensemble.
Plein de relations différentes, quoi.
Oui, et oui, oui, tout à fait. Mais on a toujours trouvé notre place naturellement l'un l'autre, quoi. Après, on s'engueule, hein, ça, je ne vais pas le cacher. Hein. En cuisine, on n'est pas toujours d'accord. Et puis, on a tous les deux notre caractère. Mais on sait s'écouter. C'est vraiment notre force, ça. On n'est pas d'accord, on se fâche. Mais on sait aussi entendre raison et dire, entre guillemets, il me fait chier, mais il a raison, quoi.
Sur quoi vous pouvez vous fâcher, par exemple?
Stéphane est très artistique. C'est lui qui peint. Là, là, les tableaux, tout ça, c'est lui qui.
Il y a plein de tableaux dans le resto.
Oui,
Donc, c'est lui.
Voilà, tout ça.
Si vous venez chez André, vous verrez les tableaux.
Verrez,
c'est lui qui peint.
C'est lui qui peint. Et l'assiette, c'est pareil. Le dressage de l'assiette, lui, il a un côté artistique que je n'ai pas du tout. Moi, dans la cuisine, c'est vraiment le goût, la bonne sauce, la bonne cuisson. Dresser, je ne sais pas forcément dresser. Ouais. Pour moi, il faut que ce soit bon. La cuisson.
Et après, on le balance comme ça.
Ah, et voilà. Alors, ça énerve Stéphane parce que je ne mets pas autant de soin que lui à dresser une assiette.
Ah.
Voilà. Donc, on va se fâcher pour ça, beaucoup.
Ah oui, donc. Mais il t'a formé, il t'a un peu expliqué.
Il me forme sur le dressage, mais il me dit que je ne l'écoute pas. Ah, bon, voilà. Voilà nos sujets de,
ça t'intéresse,
de dispute.
Moi.
Ouais. Pour moi, mais après, il a raison. Il a tout à fait raison. Mais oui, mais c'est vrai que moi, je mets une priorité sur le goût, l'assaisonnement et tout ça.
Ouais.
Lui aussi. Mais
oui.
Lui, il est deux. Lui, il a ce côté artistique du dressage qui est beau, propre et voilà. Et
donc, il t'engueule un peu parce que tu
n'es
pas assez minutieuse.
Je ne suis pas assez rigoureuse sur la finition.
Vous avez ouvert cet endroit et l'année qui suivait, vous avez eu une étoile.
Oui, on a eu, oui.
C'est incroyable.
Oui, ça a été une surprise ça, parce qu'on a ouvert en juin et c'est vrai que l'année d'après, on a eu une étoile au Guide Michelin. Ça a été une énorme surprise.
Comment ça se passe en fait? Parce que j'y connais rien.
Mais alors, bon, là, je ne vais pas le cacher, c'est la médiatisation qui a fait que le Guide Michelin a su.
Ouais.
Tout le monde il y a eu tellement de papiers comme quoi, la première femme héros de France s'installe, ouvre son restaurant à Biarritz.
Ils se sont dit, on va aller goûter.
On va aller voir, voilà. Que sinon, c'est vrai qu'en général, ça met plus de temps. Il faut être honnête. Et donc, du coup, c'est grâce à ça que je pense qu'on a eu notre étoile rapidement.
Et alors, tu crois que c'est plus dur de gagner ta première étoile ou de la garder année après année?
Oh, la garder.
Ça fait 15 ans, non?
Oui, c'est 15 ans, oui. Mais moi, je dis, c'est vraiment la garder parce que le titre du meilleur de France, mon col, je l'ai à vie.
Là, t'es tranquille.
Voilà,
t'es
là, je suis tranquille.
Comme président de la République.
C'est ça, presque. Hein. Je l'ai à vie et ça, on me l'enlèvera pas. Mm. Mais l'étoile, c'est un enjeu qui est remis chaque année. Quoi. C'est un travail en équipe. C'est vraiment un travail en équipe parce que la cuisine est importante, mais la salle, l'accueil est aussi important aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. Mais ça, c'est une pression, oui. Une pression parce qu'on se dit, parce qu'ils viennent, nous visiter, mais on ne sait pas.
Surprise.
Ça pourrait être très bien toi qui viens manger
je
et tu es inspecteur et je ne sais pas que tu es inspecteur quoi.
Je suis podcasteur inspecteur.
Voilà donc voilà c'est ça oui.
Ok.
C'est un stress de chaque année ça.
Ah oui.
Oui vraiment réellement parce que
t'as envie de la garder pour le coup l'étoile.
Bien
vous
sûr.
Avez envie de la garder.
Ah oui vraiment.
C'est important
l'étoile pour nous elle est oui. C'est
qu'est-ce que ça représente?
Mais ça représente une reconnaissance et une distinction que l'on par rapport à la cuisine que l'on fait, que l'on aime, quoi, que qui est importante pour nous. Et c'est vrai que on peut la perdre et on serait réellement déçu et triste. Mais si on la perd, malheureusement, il y aura une raison et il va falloir se remettre au travail. Mais c'est un travail quotidien, rien n'est jamais acquis. Donc c'est pour ça que on essaye de se renouveler et puis la concurrence est de plus en plus rude et puis le Michelin aussi évolue donc on doute toujours quoi. Est-ce qu'on est toujours dans la ligne est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on n'a pas raison c'est des doutes de manière ça c'est un doute quotidien. C'est ce qui nous fait travailler être à la hauteur aussi au quotidien, ça. Il faut entendre que rien n'est jamais acquis. Donc.
Ça fait 30 ans que tu fais ce métier?
Combien peut-être? Non, pas 30 ans. Allez, un peu moins quand même.
Ouais,
25 ans, allez, 25 ans.
Donc que tu as commencé en tout cas ton lycée, quoi.
Ouais,
pas loin,
c'est vrai, hein. N'empêche, oh là là, 30 oh là ans, là. Oh là là.
Mais je me demandais un peu, tu vois, t'es pas lassé à des moments?
Oh non.
Tu te dis pas, à 45 ans, t'as 44, c'est ça?
J'ai 44 ans, t'es bien informé.
je me suis un peu renseigné, un peu taffé.
J'ai 44 ans.
T'as pas envie de te dire, non mais j'ai envie de faire autre chose?
Non, alors pas du tout. Et c'est ce que je me dis. Non, moi je me verrais... autre chose, si je devais vraiment faire autre chose, j'adore le poisson. Je me suis posé la question au confinement, quand on a dû arrêter de travailler, on a été fermé tant de temps.
Ouais.
Là, ça a été dur psychologiquement. Et je me disais, oh, qu'est-ce que je ferais? Alors, moi, j'ai deux trucs. Soit la poissonnerie. J'adore le poisson. Ou soit le jardin.
Tout poissonnerie, alors?
Ouais. Mais je me disais, pareil, faire un concours, mais trans-poissonnerie. Stéphane me disait, arrête tes conneries. Mais
ah,
oui,
il y a un concours poissonnerie.
Ouais, le poissonnier aussi, les bouchers.
Incroyable, ok.
Ouais. Et donc, je me disais, au confinement, le temps du Covid, je me disais ça, à la limite,
Stéphane,
je ferais bien.
Stéphane, il t'a dit, arrête tes conneries.
Oui. Mais sinon, après, sinon, j'aime être en extérieur. Donc, ça serait paysagiste où j'aime l'extérieur, le jardin. Okay. À la maison, j'aime être au jardin, dehors. J'aime mon jardin, quoi. Ça serait ça. Mais sinon, j'aime la cuisine. Donc, non, je ne me verrais pas faire autre chose, en gros. Hein.
Ouais.
Vraiment, j'adore ça, quoi.
C'est incroyable.
J'adore ça et c'est vraiment un métier de passion.
Ça, j'imagine. Mm. C'est un métier dur, non ?
Oui, dur, dur, enfin, mais comme d'autres métiers.
Puisque tu n'as jamais rien fait d'autre, en fait.
Voilà, c'est ça. Et puis j'aime ça. Mm. Donc je dis, d'autres métiers sont aussi durs que les nôtres. Nous, ce qu'il y a, oui, c'est ça, c'est travailler les week-ends et les soirs. Et les, quand les... Voilà, mais c'est comme ça, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de ta vie de famille. Mm-hmm. Comment tu fais pour gérer ? Parce que tu as des petits, là, qui ont 7 et 8.
Oui, ouais, ça y est, ils sont en vacances, là.
Ouais.
Ben, j'en ai un qui est en stage de foot aujourd'hui, l'autre qui est en centre de loisirs, qui va à la piscine aujourd'hui, et voilà.
Comment vous faites ? Parce que là, pour le coup, vous travaillez
tous les deux
en même temps.
Mais bon, après, on se répartit. Hein. Stéphane est avec eux le soir à la maison.
Okay.
Après, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup. Hein. Quand ils étaient petits bébés, elle était là. Elle était très présente, elle nous a beaucoup, beaucoup aidés. Donc, j'ai pas eu de nounou. J'ai eu la chance, voilà, c'est maman qui prenait toujours le relais. Donc, ça, c'est pareil. Je peux partir travailler en confiance. J'ai pas le truc de mince, la nounou, est-ce qu'elle va être. J'avais pas de stress de ce côté-là, quoi. J'avais les enfants en sécurité avec ma maman. Donc, elle nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et puis là, on essaye de lever le pied parce que, bon, ben, mes parents fatiguent aussi quand même. Mmh. Et puis, les enfants grandissent, ils bougent. Donc, on trouve d'autres solutions. Mais on arrive toujours à s'organiser. Voilà, Stéphane est avec eux le soir. Et moi, je prends mon mercredi et mon samedi quand ils sont à l'école avec eux pour les activités scolaires et tout ça. Et comme ça, les activités sportives, je veux dire. Et comme ça, je participe aussi avec eux. Et c'est important. On a eu des enfants tard. Mais on a voulu les voir grandir. Pour moi, ça, c'était très important. Mmh. Et Stéphane aussi est très papa poule.
Ouais.
Et on veut les voir grandir. Alors eux, on les a séparément, quoi. Des fois, on fonctionne comme des parents séparés. Mais nous, on ne se rend pas compte. C'est eux qui nous le disent. Et ils sont heureux quand, le lundi, mardi, quand on est en repos, on est tous les quatre. Et ça, on le voit, ils expriment leur joie d'être tous les quatre, quoi.
Ah oui, j'imagine.
Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, après, on est avec eux séparément, quoi.
Vous avez décidé de faire des enfants tard, mais l'objectif avant, c'était la carrière.
C'était la carrière, quoi. On a enchaîné, quoi, le concours, on a ouvert le restaurant, et puis après, le temps de mettre le restaurant en route, tout, l'équipe, et bon, voilà, tout ça, ça a pris du temps. Et puis après, on se dit, bon, ça serait bien qu'on fasse une famille maintenant.
J'imagine. Et comment vous éduquez vos petits à la cuisine ?
Oui, alors manger, faire la cuisine, non. Petite, oui, je les initiais beaucoup, je les faisais faire avec moi. Ils aimaient faire avec moi la cuisine, maintenant ils s'en fichent complet, donc aucune pression là-dessus. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, ils veulent faire avec nous, ils font, ils veulent pas. Mais manger, oui, et goûter, oui, ça c'est important.
Éduquer le palais un peu là.
Ah oui, ça c'est très important, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils disent, j'aime pas. Non, t'aimes pas, tu goûtes et après tu verras. Alors, si j'aime pas quand même, ils ont goûté, mais on les force à goûter. Ça, après, on les force pas à manger, mais on les force à goûter de tout et à manger de tout.
C'est
après,
important pour toi.
Oui, pour moi, oui. Ouais. Vraiment. Oui, oui. Après, mais alors, des fois, on est frustré parce que il y a beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas encore, mais bon, il y a l'âge. Hein.
Oui.
On veut aller trop vite aussi, quoi.
Ouais, et en même temps, c'est bien de les éduquer à tout goûter.
Oui, à tout goûter. Pour nous, c'est important, oui.
En plus, j'imagine, vous faites des plats de ouf, non ?
Non, il ne faut pas croire. Ah ben non, on fait simple.
Simple.
Mais le produit.
Tu imagines bien faire une omelette, tu ne vas pas faire une omelette comme je fais une omelette, quoi. C'est impossible.
Mais c'est toujours le bon produit, quoi.
Ouais.
La base. C'est vraiment le bon produit. Et la preuve, ils sont habitués parce que ma maman, donc l'été ou quoi, pendant les vacances, ils vont chez mes parents. Et ma mère, un jour, leur a sorti un poisson surgelé, quoi. Mais le petit, c'est Ivan, il devait avoir, je pense, 6 ans, il lui a fait la réflexion. Il est pas bon ton poisson. Habitué à manger du poisson frais à la maison toujours, quoi. Alors, dans un sens, je me suis dit, c'est bien. Et au moins, voilà, le palais
ils
se fait, quoi.
Ils ont des standards,
quoi.
Il est pas bon ton poisson.
Voilà, manger bien, mais c'est surtout le bon produit. Le produit de saison et le bon produit. Voilà, après, non, on fait des choses simples. Mais après, oui, c'est vrai qu'on aime bien manger, mais bon, toujours un peu cuisiner, bien sûr. Mais qui est toujours un bon jus, oui, ça c'est important pour nous. Oui.
J'imagine. Tu dis non, fais pas des trucs de ouf. Je te crois pas, franchement. Pour revenir à cette omelette, c'est impossible que tu fasses une omelette de base.
Bah, déjà, c'est avec les œufs de la ferme de maman. Hein.
Bah, voilà.
Déjà.
Rien que ça.
T'as les jaunes fluo. Hein. Ah bah. Non, déjà, oui, il y avait des bons œufs. Et puis, une omelette au cèpe, nous, on va se régaler, mais eux, ils vont pas l'aimer. Ils aiment pas les champignons.
Pour l'instant.
À mon grand désarroi.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant, voilà, c'est
viendra.
Ça.
Est-ce que
Est-ce que vous avez des projets d'ouvrir un autre resto? C'est un truc qui vous titille un peu ou pas?
Non, projet d'ouvrir notre restaurant, non. Alors, on a eu, parce qu'on a une cuisine très petite, alors on est frustré par notre petite cuisine. Alors, on a eu, oui, l'envie de regarder ailleurs.
Plus grand.
Et puis après, on est très frileux, parce que, avec le problème du personnel aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, on est très, à 28 ans quand on s'est installé, on réfléchissait pas à tout ça. Mais c'est vrai, la différence à aujourd'hui, où on se pose trop de questions, et on se met pas mal de barrières, parce qu'on se pose pas mal de questions.
Il y a une forme de peur aussi, peut-être?
Oui, énormément. Énormément. Donc, on joue la sécurité. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, ouvrir autre chose, on sait poser la question, mais non.
Okay.
Non, on fait du consulting au Japon. On a eu deux restaurants, un restaurant gastronomique qui a eu une étoile au guide Michelin qui a fermé pendant le Covid.
Okay.
Mais maintenant, on a gardé l'autre.
Oui,
au Japon, à Tokyo. On en avait deux. Donc pareil, on est parti sur des semaines gastronomiques là-bas. Semaine gastronomique sur le Pays Basque. On est parti avec les acteurs locaux d'ici. Pierrot Deiza, la maison Paris-S. Et nous, on faisait un restaurant. On avait monté un restaurant éphémère avec la cuisine basque. Et les personnes avec lesquelles on travaille au Japon maintenant, nous ont découvert là-bas, ont aimé notre cuisine et nous ont proposé de s'associer ensemble sur donc deux points de restauration différents. Donc le gastro qui a fermé et maintenant on a le bistrot.
Ah.
Un bistrot, donc le quartier qui se trouve sur le quartier Kiyobashi et qui fait vraiment on a des spécialités basques comme la choix, le poulet basquez. Le gâteau basque.
Okay.
Voilà.
Pourquoi le Japon?
Ben, le Japon, mais parce que nous, on était vraiment attirés par le Japon. On a eu la chance d'y aller par le biais d'un ami. On a beaucoup, beaucoup aimé. Et puis maintenant, vu qu'on a ces contacts-là, avant Covid, on y allait une fois par an. Quoi.
Ouais.
On aime beaucoup le Japon par leur culture gastronomique, quoi, qui est totalement différente de la nôtre et le respect qu'ils ont, l'art qu'ils ont. On y est très attirés. Ouais.
Bah, tu m'étonnes. Mmh. Pour le coup, il y a une vraie rigueur aussi.
Un respect du produit, la technique, pour tout, quoi. Mmh. On est en admiration pour eux.
Tu disais tout à l'heure que vous avez des problèmes de personnel, c'est ça? C'est compliqué de recruter
aujourd'hui? Oui, c'est général. Hein. Oui. Nous, je croise les doigts. On a une super équipe, on est petit. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Je me rassure en me disant, heureusement, on est petit. Parce que c'est compliqué de trouver... le Covid a fait du mal, il faut dire ce qui est quand même. Le Covid a fait du mal pour nous, dans notre métier. C'est des horaires en coupure. C'est des horaires où on travaille les week-ends, où on travaille quand les autres sont en vacances, les jours fériés. Et le fait d'être resté 8 mois à la maison, on y a tous pris goût. Hein, tous les soirs à la maison, avoir nos week-ends. Moi, la première, hein, j'y ai pris goût avec mes enfants. Et donc, c'est vrai que maintenant, on a du mal à trouver des personnes qui veulent travailler en coupure. Beaucoup demandent la continue ou qui ne veulent pas travailler les week-ends. Donc, c'est de plus en plus difficile de trouver. Ouais.
Ah ouais. Ouais. Putain, ouais. J'avais pas conscience de ça.
Ah si, réellement, oui. Okay, oui, c'est compliqué.
T'as vu une vraie évolution.
Ah oui, il y a eu une grosse cassure depuis le Covid, malheureusement, oui.
Ok. Ouais.
Et pourtant, voilà, moi, ce que je dis, c'est on est un métier de service et qui fait... Voilà, on travaille quand les gens sont en vacances et sans...
Bah oui.
Voilà, ce qui pour moi est logique, maintenant l'est plus pour nos jeunes.
Je comprends.
Ouais, donc il y a un réel changement.
D'où l'envie de rester petit.
Oui, pour l'instant, oui, réellement. On verra après.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, André, dont t'aurais aimé parler?
Je sais pas, je crois pas. On a quand même pas mal parlé.
On a parlé de plein de trucs, surtout toi.
C'est vrai.
Et tant mieux, parce que c'est toi finalement qui devais parler, donc c'est une bonne idée.
On a parlé de cuisine, de tout ça, et c'est ce que j'aime, donc voilà.
Ouais, donc ton resto, c'est Les Rosiers?
Ça s'appelle Les Rosiers, c'est à Biarritz. Donc on est excentré, hein, on n'est pas en centre-ville, on n'est pas en bord de mer, on est dans un petit quartier résidentiel, au calme.
Ouais.
Et,
c'est très chouette.
Ouais, voilà, c'est mignon. Nous, on a eu un coup de cœur. Et puis, on est bien, au calme toute l'année. Même en pleine saison où c'est la couille partout, on n'a pas l'impression tellement on est au calme.
Oui, c'est clair que vous êtes un peu éloigné.
Oui, on est vraiment excentré. Donc, puis c'est la petite maison, 25 couverts, on est bien.
Je mettrai le compte Insta. C'est la meilleure façon, c'est de vous suivre sur Insta,
sur
c'est
Insta,
ça
sur Insta, sur les restaurants. C'est Restaurant Les Rosiers. Ouais. Voilà, Restaurant Les Rosiers.
Je mettrai le lien. Tu sais, on peut faire ça sur les podcasts.
Super.
On peut mettre des liens et tout. Je mettrai
génial.
Le lien. Et puis, pour venir réserver une table aussi.
Bien sûr, ah ben oui, avec
un
plaisir.
Grand merci. Vraiment,
merci.
C'était adorable.
Ben merci à toi d'être venu me voir.
Avec grand plaisir.
Ça m'a fait plaisir. Merci
cool.
beaucoup.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.